avec Hélène Denis.
J'ai mis un soleil orange sur ma feuille de route parce que le soleil brille et ça nous rend de belle humeur. Le 3 fait le mois, je ne sais pas si c'est vrai, mais si ce l'est, bien, on aura un mois de septembre exceptionnellement beau et estival. D'ailleurs, l'été est toujours en cours, hein? L'été jusqu'au 22 septembre. Ça va bien, Mathieu?
Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr.
Elle-même,
elle va bien, oui.
À la bonne heure.
Et celle qui rit a l'air de bien aller aussi, Isabelle Falardeau. Rebonjour.
Oui, bonjour.
Oui, une première cette pour la rentrée, pour cette saison.
Avec vous, oui, tout à fait.
Vous avez passé un bel été, Isabelle?
Ça a passé tellement vite, je suis sûre qu'on a tous la même sensation, mais là, je viens de passer une très belle fin de semaine au chalet avec les amis, eux étaient en camping, puis je me suis dit, Colin, il fallait bien qu'on tombe sur la fin de semaine, la seule fin de semaine où il a fait vraiment frite.
Ah non, ben vous
mais,
trouvez ça,
sinon,
non? Il faisait super beau dimanche et lundi.
Ben en tout cas, toutes les nuits étaient fraîches.
Ah,
on avait
vous avez gelé.
Pleine, puis oui,
bon.
Mais ça, on a quand même eu du plaisir, puisque notre cœur était plein de chaleur.
Vous qui parlez d'alimentation à cette antenne, est-ce que vous avez découvert quelque chose de particulièrement bon, de particulièrement curieux cet été côté bouffe
ou
boisson?
C'est tellement une bonne question. Oui, j'ai découvert quelque chose, mais il faut que je contacte mon amie pour qu'elle me rappelle c'était quoi. C'était un breuvage alcoolisé qui n'était pas de la bière et qui était très, très, très chouette.
Ouais.
Et j'ai oublié le nom, justement, je voulais en racheter. Donc, à suivre, je vous en donnerai peut-être des nouvelles.
Certainement. Et parlant de choses à boire, vous allez nous parler de bière allemande aujourd'hui.
Mais oui, tout à fait. On se plaît souvent des algorithmes qui nous donnent, qui mènent un petit peu notre consommation Internet vers des endroits toujours les mêmes. Mais ça fait en sorte que j'ai plein de suggestions sur l'alimentation et l'alcool. Et donc, c'est ça, c'est la chute de vente de bière en Allemagne, qui est vraiment le pays symbolique de buveurs de bière.
C'est vrai.
Mais c'est ça, ça se remplace un peu par la bière sans alcool.
Ah oui, c'est de plus en plus populaire, hein? Non seulement
ça,
en Allemagne, mais...
C'est une tendance mondiale.
Oui. Alors, bien, au plaisir de vous retrouver. Il y a Serge qui est en studio. Bonjour, Serge.
Bonjour tout le monde.
Alors, aujourd'hui, pas d'alcool. La semaine dernière, vous nous parliez de contrebande dans les cantons de l'Est. Mais aujourd'hui, on s'en va à Rimouski.
Absolument, absolument. Dans la nuit du 6 mai 1950 au 7 mai 1950, Rimouski a connu une nuit rouge. Alors, un terrible incendie qui a ravagé le tiers des bâtiments de la région.
Ah oui.
Oui, je vais vous parler de ça.
Ça se passait donc en 1950. Oui. On aura aussi au menu une entrevue avec Mathieu Quesnel, auteur, metteur en scène, comédien, qui viendra nous présenter sa pièce intitulée « Trip », qui avait été présentée un peu avant, ben pas un peu, avant la pandémie et qui reprend du service. On ouvre la saison de la licorne avec cette pièce qui promet 14 comédiens et comédiennes sur la scène, dont Éric Bernier et Yves Jacques, première ce soir. Ça promet. Alors, il sera avec nous autour de 10h30, 10h33 dans ces eaux-là. Et qu'est-ce qu'on aura? Bien, nos chroniqueurs qui sont là. Il y a Daniel Lachance qui va être là, mais peut-être la semaine prochaine. Daniel va être là moins souvent, mais à chaque fois qu'il va être là, ça va toujours être passionnant. Lui qui parle de musique avec beaucoup, beaucoup de savoir et d'amour. Alors, on y va avec un groupe qu'on aime beaucoup, Choses Sauvages.
Chose sauvage, la chanson court toujours.
À la une du Devoir, fiasco, ça clique. Les ministres auraient dû poser plus de questions, jurant n'avoir rien su avant février 2025. Le premier ministre François Legault a écorché ses ministres des Transports et le gouvernement libéral. Filière batterie, Québec coupe le courant à Northvolt. Le bloc d'énergie de 352 MW réservé au projet de l'entreprise suédoise sera libéré. Aujourd'hui, nous mettons fin au financement de Northvolt au Québec, a annoncé la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, dans un court communiqué de presse publié mardi. Cette aventure s'est avérée infructueuse et nous en sommes évidemment déçus. Les 270 millions investis par Québec dans la maison mère sont définitivement perdus, rappelle le gouvernement, puisque celle-ci a fait faillite. Le 12 septembre marquera la journée de l'album québécois. Le vendredi 12 septembre, un mois pile après la journée « J'achète un livre québécois », se tiendra la journée de l'album québécois animée par des performances en direct chez des disquaires un peu partout en province, mettant en vedette Marie-Pierre Arthur, Calamine et Cindy Bédard, entre autres participantes à cette initiative vouée à la valorisation et à la découverte des albums et de la musique créée sous toutes ses formes au Québec. Et si on se tourne vers le Journal de Montréal, les titres se ressemblent. Tout le monde savait, point de suspension, sauf Legault. Sa clique des ministres et son entourage était au courant. Ce qui ressort du passage du premier ministre devant la commission d'enquête publique, c'est à quel point tout le monde autour de lui a su que les coûts de la transformation numérique gonflaient. Et tous ont un peu la même défense. Il fallait que ça fonctionne. Les services aux citoyens devaient être rétablis et l'opinion publique en même temps, écrit Rémi Nadeau. Personne ne s'est soucié de l'argent. On reconnaît là la méthode de résolution de problèmes de la CAQ. Québec tire la plug sur Northvolt. Quel gâchis! Richard Martineau écrit la fin de la filière batterie, une chronique là-dessus. Un autre fiasco de la CAQ, Michel Gérard. Et puis, si on se tourne vers la presse plus d'aujourd'hui, 3 septembre 2025, Commission Galant, on aurait dû m'informer. François Legault a plaidé qu'il ignorait l'ampleur des dépassements des coûts de sa clique et déploré le manque de transparence de la SAAC, mais il a aussi critiqué à mots couverts ses ministres François Bonnardel et Geneviève Guilbeault pour ne pas avoir posé plus de questions. Paul Journet écrit l'imputabilité comme un boomerang et Dialogue, Michel Séaugé, lui, écrit que Legault s'en tire bien, mais la confiance écope. Francis Vaille, droit de douane et boycottage, l'offensive canadienne a fait des ravages. Et Hugo Dumas a vu les deux premiers épisodes d'Antigang qu'on va pouvoir voir à l'antenne de Radio-Canada, ici, télé, dès la semaine prochaine. Et selon lui, Antigang neutralisera Indéfendable. Toutes les photos des chiens.
Demande-moi une chanson de Maud Audet.
Isabelle Falardeau, c'est à vous, on vous écoute et on salive déjà.
Oui, alors, c'est ça, c'est cette tendance mondiale. Alors que les ventes de bière chutent, les jeunes Allemands développent un goût pour la bière sans alcool. C'est la traduction que j'ai faite là, du titre de cet article que j'ai trouvé sur le site BBC News en Bavière. BBC News in Bavaria, en fait. Et c'est signé Bethany Bell. Donc, les Allemands boivent de moins en moins de bière, mais les variétés sans alcool sont plus populaires que jamais. On nous parle du fait que l'Office fédéral allemand des statistiques, Destatis, a indiqué que les ventes de boissons non alcoolisées ont plus que doublé ces dernières années, en hausse de 109%, donc depuis 2013, même si les ventes de bière, en général, sont à leur plus bas niveau depuis plus de 30 ans. Évidemment, on va voir que plus bas niveau, c'est quand même un très haut niveau parce que c'est quand même l'Allemagne.
Tout est relatif.
Et même si les ventes de boissons non alcoolisées ont doublé, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles partaient de très haut, mais c'est quand même une tendance. Donc, pour la première fois, les ventes de... Là, vous allez voir, les ventes de bière sont tombées sous la barre des 4 milliards de litres en un semestre. Une année, là.
Un donc, semestre, c'est quoi, 3 mois?
Voilà. Et les ventes de bière allemandes ont chuté de 6,3%, donc ça nous donne quand même une idée, là. C'est 262 millions de litres. Donc, c'est baissé à environ 3,9 milliards de litres au premier semestre de 2025. Ça, c'est par rapport à la même période pour l'année dernière. Là, moi, j'ai voulu aller voir, ça veut dire quoi, ces chiffres-là? Donc, j'ai réussi à trouver un tableau de la consommation de bière mondiale. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2022. Donc, c'est pour vous donner une idée. En 2022, en termes de tonnes totales de bière par année...
des tonnes de bière.
L'Allemagne est quand même pas dans le haut là, du classement. C'est la Chine qui est en premier, les États-Unis, le Brésil, ben, des pays où il y a beaucoup plus d'habitants, évidemment. Mais si on va per capita, donc par habitant, le premier buveur, la Chine, est à 23 kilos par habitant et l'Allemagne est à 95. Et je vous confirme que c'est en tête là, du classement. Donc, en termes de par habitant, nous, si ça vous intéresse, le Canada, on est dans le milieu à peu près. Là, on est à 2 millions de tonnes par année par rapport aux 34 millions de la Chine ou aux 7 millions de l'Allemagne.
Mais c'est quand même pas mal de tonnes.
Et par habitant, on est à 57. Donc, on est la moitié de l'Allemagne à peu près.
Par année.
Donc, ça, c'est pour vous donner une idée. C'est quand même une très, très lucrative industrie en Allemagne, toujours maintenant. Mais il y a quand même une tendance à la baisse. Donc, la brasserie Erdinger, près de Munich, produit de la bière depuis les années 1880. Et son directeur général affirme que les habitudes de consommation d'alcool ont changé et qu'aujourd'hui, environ un quart de leur production est sans alcool. C'est quand même beaucoup. Il dit qu'on doit trouver un moyen de rendre la bière, même sans alcool, attrayante pour les jeunes. Il faut comprendre comment ils se rencontrent, comment ils font la fête ensemble. Aucun algorithme ne vous dit que vous avez besoin d'une bière maintenant. C'est vrai qu'on a tendance à justement se fier aux algorithmes. Là, on se fait donner des suggestions.
Mais là,
il n'y a pas d'algorithme qui nous dit « Ah, à ce moment-ci, ce serait le temps de ta deuxième bière. »
C'est exagéré.
Monsieur Kreitz, donc le directeur général de cette brasserie, considère toujours la culture de la bière allemande comme résiliente et son entreprise fait aujourd'hui la promotion de la bière sans alcool, de sa bière sans alcool, lors d'événements sportifs, comme une alternative naturelle aux boissons énergisantes hein, qu'on associe facilement, généralement, aux événements sportifs. Au café Cosmos de Munich, le barman Louis von Tucker affirme que beaucoup de ses clients sont plus soucieux de leur santé. Donc, il voit vraiment que ça peut être aussi là, un aspect santé. Dans les années 2000, je me souviens que les gens étaient rebutés si vous leur disiez qu'ils devaient boire un verre d'eau. Ils étaient vraiment offensés. C'est très bon. Mais maintenant, il a détecté un changement. Tout le monde est un peu plus conscient de sa consommation. Je pense que la plupart des gens boivent encore de l'alcool, mais de manière plus consciente et en consommant des boissons sans alcool entre chaque consommation. Donc, On boit de la bière, mais on alterne avec une petite bière sans alcool. Mais il est quand même d'avis que la bière forte ne va pas disparaître. C'est un léger changement, selon lui. Je pense qu'on va vendre entre 150 et 500 litres de bière normale le soir contre environ 20 litres de bière sans alcool. Donc, il y a encore un grand écart important là, entre les deux. Et là, on nous parle du festival folklorique de Sankerva dans la ville de Bamberg. Ça, c'est au nord de la Bavière. Et là, on nous dit que la tradition de boire de la bière alcoolisée en Allemagne semble encore bien vivante. Et là, moi, évidemment, je suis allée voir c'est quoi ça, ce festival-là. Et oh my God, ça vous donne tellement goût d'y aller.
Est-ce qu'il y a de la choucroute?
Ben, il y a de la choucroute, il y a des saucisses, il y a de la bière. Ah. Mais surtout, pendant les 5 jours de célébration, les rues médiévales sinueuses de Bamberg sont remplies de musiciens. C'est, ça a l'air vraiment, là, on a l'air d'être dans un conte de fées. Vous allez voir, vous irez voir les images. Donc,
comment ça s'appelle, le festival?
Sankerva, c'est S-A-N-D-K-E-R-W-A. Mais si vous cherchez Festival médiéval de Bamberg, vous trouvez ça tout de suite.
Ah, médiéval, avec les costumes puis tout.
Mais oui, c'est ça, avec des maisons médiévales. C'est un très beau village. C'est, ça a l'air vraiment chouette, là. Un jour, je vais aller là.
Oui.
C'est sur ma bucket list maintenant.
Avec votre
donc,
épée.
C'est ça, donc, les musiciens, les stands de saucisses, les innombrables stands de bière. On nous dit qu'il y a 9 brasseries locales de bière. Donc, j'imagine que leurs bières sont à l'honneur. Dans la Sandstrasse de la vieille ville, Pascal buvait une bière avec un ami et il disait « La bière est très importante pour la ville et nous avons beaucoup de brasseries ici. Les gens viennent ici pour faire la fête. Et pour la bière, je ne peux pas imaginer que la consommation de bière ici à Bamberg soit vraiment moindre qu'avant. » Et il y avait une étudiante, Magdalena, qui était d'accord. Je regarde autour de moi et tout le monde a un verre de bière à la main. Bon, évidemment, il y avait peut-être des bières qui étaient sans alcool, ça paraît pas nécessairement. Je suppose donc que surtout dans cette région d'Allemagne, la bière fait partie intégrante du quotidien, même si elle n'est pas saine, on le sait tous. Mais elle conclut, et on conclut l'article quand même en disant, j'ai l'impression que surtout dans ma génération, les gens ont tendance à boire moins au quotidien, mais ça reste l'Allemagne, ça reste la Bavière. Et voilà. Donc,
les propos de Magdalena, qui sont lucides.
Voilà.
Alors, elle n'avait pas pris trop de bière alcoolisée, il semblerait.
Peut-être pas encore, ou peut-être que justement elle était souriante parce qu'elle avait bu de la très bonne bière bavaroise.
Merci. Isabelle, vous êtes toujours là?
Oui.
Super, parce que là, Serge a des questions quiz pour nous tous et toutes.
Chic!
Chic alors!
Oui, chic alors. Alors, c'est toujours tiré mes petites questions quiz du TV Hebdo. À la fin de la revue TV Hebdo, il y a toujours une petite section. Là, c'est Véronique Curion.
TV Hebdo va vous envoyer une dinde à un moment donné là, pour vous remercier parce que vous faites mention oui. de cette publication au moins une fois par 2 mois.
Ah, oui. Alors, combien de marches y a-t-il, tadadam, dans la tour du CN à Toronto?
Bon, choix de réponse, s'il vous plaît. À moins que vous le sachiez, Mathieu ou Isabelle.
Risqueriez-vous, je ne sais pas, 1500, 2000, 3000?
Bon. Je ne sais pas, il y a combien d'étages. Moi. Je vais y aller avec 3... Non, j'ai aucune idée.
7292.
Oh ouais,
Mathieu. Mais non, mais vous aviez donné un choix de réponse.
Oui, oui. Mais c'est pas les bonnes réponses.
Ah, oh, vous nous induisez en erreur en plus. Bon, ça va bien. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup?
Oui, on parle...
4000.
Non, non, non. Moins que ça, c'est surprenant. 1776 marches.
Ah, OK.
Ben, c'est pour... quand même...
Mais oui.
Oui, oui, non, c'est du sport. Oui, oui, oui.
C'est du sport.
Oui. Oui. Pour atteindre la plus haute plateforme d'observation de l'hémisphère occidental à Toronto. De là, à 447 mètres au-dessus du sol, vous pourrez sentir la tour osciller quand il vente. On peut aussi accéder au niveau d'observation principale en 58 secondes grâce aux ascenseurs qui vont à une vitesse de 22 km/h. C'est plus reposant un peu, c'est moins fatigant.
Oui, surtout à l'aller.
Oui. Et savez-vous que la foudre frappe la tour du CN environ 75 fois par an?
Ah, quand même?
Wow. Oui, mais que celle-ci est sécurisée par des bandes de cuivre. Oui. Ça la protège. Oui.
Ça prend des paratonnerres. Mm-hmm.
Et il y a quelque chose aussi qu'on se pose quand on voit le pont, une question qu'on se pose quand on voit le pont, le Golden Gate à San Francisco, il n'est pas doré. Pourquoi on l'appelle le Golden Gate? Il n'est absolument
c'est
pas doré.
Vrai, ça?
Ben oui.
Il a gagné une médaille un jour.
Alors, le pont suspendu de San Francisco, inauguré le 27 mai 1937, n'est pas de couleur or, comme son nom l'indique. Le pont doit plutôt cette appellation à la voie d'eau qui l'enjambe, le détroit Golden Gate. Ah, voilà, voilà. Et sa teinte orangée au pont est due à un revêtement anti-corrosion appliqué sur l'acier. Et chaque année, 20 000 litres de peinture sont nécessaires à son entretien.
Ah oui, peinture anti-rouille.
Oui, c'est un bon contrat. La compagnie doit être contente.
Oui.
Et quels sont ceux dans
vous
le groupe?
Vous avez-tu
qui sont,
encore?
Oui, dans le groupe, quels sont ceux qui sont allés à Barcelone déjà?
Non, j'ai pas eu cette chance encore.
C'est sur ma bucket list aussi.
Ouais.
Ben, vous connaissez la plus grande attraction populaire, la Sagrada Familia.
Ouais.
Oui, la basilique de la Sagrada Familia est une
œuvre... On n'est pas allé, mais on a de la culture.
Oui, c'est bien. C'est une œuvre extravagante et inachevée, très extravagante, oui. À fond d'avoir.
Vous l'avez vu en vrai, vous.
Oui, oui, oui. Et la construction de cette église, conçue par Antoni Gaudi, a commencé en 1882 et se poursuit encore aujourd'hui grâce à un financement reposant entièrement sur les dons. Il s'agit
c'est quoi la question?
Hein? Quelle est l'attraction la plus populaire de Barcelone?
Ah, d'accord. Voilà. Isabelle a répondu.
Oui. Il s'agit d'un des symboles les plus reconnaissables de Barcelone. Mais ce qui est dommage, c'est que quand elle a été commencée en 1882, évidemment, c'était pas très développé autour. Alors, elle respirait, l'autre qu'elle montait.
Ah,
mais là, aujourd'hui, là, moi, quand je suis allé...
Elle est un peu noyée.
Oui, on était là une journée à Barcelone. Alors, on a pris le tour de ville. Écoute, l'autobus passe, puis t'as des maisons d'un côté, puis la cathédrale de l'autre, mais tu peux pas la voir.
Ah,
tu vois le bas, mais tu vois voir le haut. Il faut que tu te
tentes
surtout
en autocar, quelquefois, on n'a pas le temps de rien voir.
Ouais. C'est dommage, là, c'était plate un peu.
Bon, ben on va y retourner. Ben, vous allez y retourner, puis nous, on va y aller peut-être un jour. Qui sait? Ben, merci beaucoup, Serge, pour ce supplément d'informations. Puis, au retour, bien, il va être... il nous reste combien de temps, Mathieu?
1 minute 30.
Ah, 1 minute 30. Y en a-t-il une autre brève?
Combien de ponts y a-t-il au Canada?
Choix de réponse encore, s'il vous plaît.
Alors, selon
300.
Les deux... Oui?
1000, Isabelle 300 000. Dit 300 000. 1000, ouais. Ah, 300 000!
Non, moins que ça, moins que ça, oui.
300, c'est trop peu, mais... Ouais, 20
000? OK, est-ce que les ponts couverts sont compris dans la question?
Exactement, oui. Selon les données les plus récentes de Statistique Canada, il y aurait 51 717 ponts au pays.
Hey, c'est précis quand même.
Oui, ce qui comprend aussi les 495 tunnels.
Ah.
Et le plus long pont qui traverse les eaux prises dans la glace, c'est celui de la Confédération, qui mesure 12,9
kilomètres
et qui relie Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, il fallait payer pour emprunter le pont. C'était 50,25. Je pense que M. Carney a aboli ça là, récemment.
50,25 aller, 50,25 retour.
Boy. Oui, pour un véhicule standard, oui, c'était cher. Moi, je l'ai pris. Je suis arrivé en Nouvelle-Écosse, puis j'ai. Je suis arrivé à l'île du Prince-Édouard. J'ai visité, puis je suis
bon, il faudrait vérifier là, si ça coûte.
Mais non,
ça a été
aboli par
gratuit.
M. Carney.
Oui, ça fait pas longtemps, donc.
Non, il y a au printemps.
OK. Pas plus tard qu'il y a au printemps. Merci, Patrice Michaud s'en vient. Et puis Serge qui revient.
Vous pouvez rejoindre Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
clarté du trésor, envie de chauffer le dehors, de shooter la palme d'or. J'ai dessiné le plan, la grande évasion, c'est une révélation. Y'a une ampoule brûlée au-dessus de ma tête. Envie de manquer de frein juste avant le ravin. Nos carisseaux pour enivrer par le beau. Moi, je t'aime et j'aime aussi. C'est plein.
La Grande Évasion, une chanson de Patrice Michaud.
Oui, on a un erratum à faire là, à cause de vous, cher Serge, parce que vous disiez que c'était gratuit traverser le pont de la Confédération, mais on a vérifié. Le gouvernement fédéral fait passer de 50,25 $ à 20 $ quand même. Il y a une bonne réduction. Le péage du pont de la Confédération entre le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard est réduit de moitié les tarifs des traversiers interprovinciaux de l'Est du Canada. On apprend ça aussi. De passage dans la province insulaire, le premier ministre Mark Carney a aussi annoncé que tous les suppléments pour le carburant des traversiers seront éliminés. Toutes les réductions des droits de passage entreront en vigueur le vendredi 1er août. C'est donc fait.
C'est fait.
Oui. Bon, alors, Isabelle est toujours avec nous. Et puis, Serge, vous allez nous raconter cette histoire tragique là, d'un incendie qui a eu lieu à Rimouski dans les années 50.
Oui, oui. Un article de Carole-Anne Deslebeau dans la revue Nostalgie numéro 17 de 2024. Et ça s'appelle « Le grand feu de Rimouski, la nuit rouge ». Alors, jamais les Rimouskois n'oublieront les événements reliés au 6 mai 1950, jour de la plus importante tragédie de leur histoire, un terrible incendie, lequel ravagea le tiers des bâtiments de la région. C'est énorme. La température était étonnamment chaude pour la saison, malgré des vents de près de 100 km à l'heure qui balayaient inlassablement la paroisse Saint-Germain de Rimouski. Et en ce samedi soir, les habitants de la municipalité s'apprêtaient à profiter d'un moment tranquille en vue du jour du Seigneur le lendemain, quand un incendie se déclara soudainement dans la vaste cour à bois de la compagnie Price Brothers. Alimentée par ces violentes bourrasques, la cour muta en un gigantesque brasier en moins d'une heure, projetant tisons et débris en flammes sur plusieurs kilomètres. L'air devint rapidement irrespirable, tandis que rue après rue, le feu progressait fatalement. Et après avoir dévasté la berge ouest de la rivière, l'incendie atteignit la vieille partie de la ville, ainsi que les ponts, coupant la localité de ses axes de communication principaux. Malgré le combat infernal des pompiers volontaires, l'incendie se propagea du côté est de la rivière, ravageant tout sur son passage. En quelques heures à peine, 383 unités d'hébergement, des dizaines d'édifices commerciaux, l'hospice et l'orphelinat des Sœurs de la Charité, le couvent des Petites Sœurs de la Sainte Famille, l'école apostolique, une partie du séminaire, de l'hôpital et du palais de justice succombèrent aux flammes. C'est beaucoup, là.
Le feu, hein, ça fait des ravages.
Et lorsque, timidement, les premiers rayons de soleil transpercèrent cet épais rideau de fumée, le matin du 7 mai 1950, plus de 2360 sinistrés furent comptabilisés, en plus des élèves et des malades qu'il fallut reloger dans de nouvelles institutions. Mais étonnamment, aucune perte humaine ne fut enregistrée.
Tant mieux, la bonne nouvelle.
Oh, wow.
C'est ainsi que, alignés sur les berges, les visages noircis par la cendre et les yeux empreints de larmes, les Rimouskois se sont regroupés face à ce funeste tableau. Et main dans la main, ils ont relevé la tête avec courage, prêts à rebâtir leur ville et leur avenir. Et j'ai trouvé sur Internet un témoignage d'un monsieur qui a vécu justement, il était étudiant à l'époque et il était pensionnaire et les autorités de l'école ont libéré tous les étudiants pour aller aider les familles à éteindre le brasier, sauver ce qui pouvait être sauvé.
On va l'écouter?
Oui, Monsieur Arsenault.
Mais un événement comme ça, on ne l'oublie pas facilement, n'est-ce pas? Comme j'étais pensionnaire, on n'avait pas le droit de sortir de l'école.
Non.
Mais avec l'importance de l'événement, on nous a autorisé de sortir de l'école et aller aider les gens en ville si on pouvait le faire. Moi, ce que je me rappelle surtout, c'est lorsque le feu a atteint la rue Saint-Louis. Quand le feu est arrivé là, j'ai eu l'impression que c'était le feu à son maximum. C'était un mur de flammes qui arrivait sur la ville. Le bruit était absolument infernal. Et on avait de la difficulté avec les yeux parce que à cause de la poussière et tout. Alors, on se réfugiait à l'école où notre infirmière nous administrait des soins pour les yeux. Puis on retournait en ville pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire.
Ah oui, quelqu'un qui l'a vraiment vécu là, oui, et ressenti. Oui. Il s'appelle Gilles Arsenault.
Monsieur Arsenault, oui.
Ouais.
Louis.
Arsenault, ah, Louis, oui. Merci. Et donc, le feu qui a 75 ans.
Oui.
Pardon, j'ai un chat, mais on a souligné les 75 ans de ce feu le 6 mai.
Absolument. Oui, oui. Ouais. Mm-hmm. Alors, quelle est la responsabilité de la Price Brothers dans cette catastrophe-là? On dit que c'est une catastrophe évitable, qui a pu être évité.
Comme beaucoup de catastrophes.
Oui. Mm-hmm. Les cas d'incendie étaient malheureusement fréquents dans ces petites villes aux ruelles étroites, érigées autour d'usines de siège, où les toitures et les murs étaient constitués presque uniquement de taillis. On craignait particulièrement l'enfer, c'était le nom donné à l'incinérateur des déchets de bois. Cela n'aurait rien eu d'étonnant, vu les vents violents ayant fait rage dans la région le jour du drame. Pourtant, c'est plutôt la rupture d'un fil électrique qui serait à l'origine de l'incendie. Même si le sujet est demeuré tabou durant plusieurs années, le verdict finit par tomber. Plusieurs poteaux électriques, déjà endommagés, cédèrent sous les fortes bourrasques, ce qui provoqua la scission de plusieurs câbles électriques. Les étincelles qui en émanèrent furent vivement balayées, embrasant presque aussitôt le bois entreposé dans la cour à bois. La compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent fut vivement critiquée puisque, bien avant le drame, plusieurs demandes avaient été déposées dans le but de faire remplacer ces poteaux pourris dans la cour à bois de la Price Brothers, lesquels on décrivait comme « dangereux et instables ». D'ailleurs, les compagnies d'assurance entreprirent de poursuivre la compagnie de pouvoir pour un montant de 10 000 $ afin d'obtenir des compensations pour les dommages. Toutefois, le premier ministre du Québec à l'époque, Maurice Duplessis, précisa aux coursiers que de poursuivre la compagnie pour négligence était à même d'engendrer faillite et, par ce fait, la perte de nombreux emplois. Donc, les agents d'assurance prirent donc la décision de verser eux-mêmes une compensation aux sinistrés dans le but d'éviter de mettre en péril l'économie locale et la stabilité de la région. Certes, cette action permit à la ville de Rimouski de se rebâtir plus rapidement, mais dans les faits, les compagnies d'assurance ne perdirent pas au change. En effet, ces dernières firent un énorme coup d'argent par l'entremise de l'augmentation des primes, évidemment, les paiements de sinistres et les nouvelles souscriptions. Ils s'en tirent toujours.
Oui, il y a de la solidarité d'un bord, mais de l'abus de l'autre.
Oui, oui, oui. Et ce drame-là, ben, a engendré un soutien transatlantique. L'empathie et l'humain ont joué leur rôle. La Croix-Rouge fut l'une des premières associations à venir en aide aux sinistrés les jours suivant le grand incendie de Rimouski. Puis enfin, un comité de secours fut mis sur pied tandis que des projets de reconstruction se discutaient le soir dans les salles communes. Une fois le comité de secours et de reconstruction bien établi, la Croix-Rouge lui légua les rênes. Seuls devant cet amont de travail, les Rimouskois n'eurent d'autre choix que d'entreprendre de rebâtir leur ville brique par brique, littéralement. Afin d'entamer la reconstruction du séminaire, le comité invita tous les habitants de la région à récupérer les centaines de briques camouflées sous les décombres de l'incendie. On offrait même un cent pour chaque brique complète et débarrassée de son mortier.
Wow.
Si cette initiative peut paraître absurde à première vue, elle a permis la récupération de plus d'un million de briques et une économie d'environ 17 000 $, ce qui équivaut à 189 000 $ de nos jours. Quand même une somme appréciable.
Ouais. Ouais.
Vers la fin mai, un grand gala fut organisé au Forum de Montréal afin d'amasser des fonds pour les Rimouskois. Placé sous la présidence d'honneur du maire de Montréal, Camillien Houde, l'événement fut animé par l'illustre Roger Beaulieu, dont la réputation de prince des annonceurs eut le don d'attirer bon nombre de spectateurs. En tout, plus d'une centaine d'artistes et de musiciens, dont Denis Drouin, Marcel Gamache, Jean-Louis Roux, Miville Couture, Jacques Normand, Roland Desormeaux, Muriel Millard, Denise Pelletier, Jean-Pierre Masson et Michel Noël participèrent à la soirée qui permit d'amasser 6 000
$. Une belle brochette.
Oui. À peine quelques jours plus tard, toujours au profit des Rimouskois, un match de baseball entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto.
Hein, du baseball entre les Canadiens de Montréal?
Ouais, ben oui, ben oui, du baseball, les Canadiens de Montréal.
Ah!
Je pense que dans le hockey, il doit être une erreur, là, une petite qui s'est glissée.
À moins qu'il y ait eu déjà une équipe qui s'est...
Ouais.
Non, non.
Là, j'avoue que là, ça m'a échappé quand je l'ai lu. Ben,
un autre erratum à venir.
Oui, mais je suis pas très. Il faut dire que je suis pas très, très pour les sports.
Mais non, mais là, vous savez que les Canadiens de Montréal, c'est une équipe de hockey.
À peine, oui.
Si le match. Non, j'ai rien à dire.
Ah, peut-être que les joueurs de hockey jouent au baseball. Ouais.
Non, mais on dit que ça fut présenté.
Non, ils jouent au golf, ça.
Mais on dit que ça fut présenté au Stade de Lormier de Montréal. Donc, c'est du baseball.
Oui.
Oui, le Stade de Lormier. Parce qu'il n'y a pas de patinoire là, le Stade de Lormier. Mm-hmm. De plus, les gouvernements de Québec et d'Ottawa investirent 5 millions de dollars pour la construction de la ville de Rimouski, ce qui équivalait à la moitié des pertes subies. Donc, progressivement, ben, on ramassait des sous. Cela dit, la catastrophe engendra une vague de compassion qui chevaucha les frontières du Québec. Effectivement, les dons affluèrent de tout le Canada, mais également des États américains, du Royaume-Uni et même du Vatican, le pape ayant fait un don de 10 000 $. D'ailleurs, à elle seule, la Grande-Bretagne achemina par avion 280 000 $ de lingerie, d'articles divers et d'outils. Et il faut souligner que on sortait de la Deuxième Guerre mondiale et les Canadiens avaient énormément aidé les Britanniques, la Grande-Bretagne. Mm-hmm. Ah, je pense que c'était un retour.
Oui. On leur en devait une.
Ouais,
ils nous en devaient une.
Ouais, ouais,
mais vous aviez raison. Là, pour compléter les efforts, les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto ont participé à un match de baseball de charité pour les victimes. Ouais.
Ah, donc, il y avait une équipe de baseball qui s'appelait le...
Pas nécessairement.
C'est peut-être non. Les joueurs des Canadiens.
Oui, ah ouais. Parce que là, les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto, c'est des noms d'équipes de hockey, mais qui ont participé en jouant au baseball, étant donné la saison. Bon, alors, ben merci, c'est tout?
Oui. Ben, j'ai des brèves tout à l'heure, là, c'est ça.
Oui, bien, tout à l'heure, c'est fini.
Ah, c'est fini?
Oui, oui. Ben, allez-y avec une brève.
Quelle proportion de la planète conduit à gauche? Bonne question.
Proportion de la planète qui conduit à gauche.
C'est assez élevé à cause de l'Empire britannique, évidemment.
Bon.
Les Britanniques conduisent à gauche. Alors,
un huitième, un 16e?
Un tiers.
Oui, environ le tiers des automobilistes de la planète conduit à gauche. Il resterait autour de 68 pays où l'on roulerait de ce côté. C'est le cas de l'Angleterre, bien sûr, mais aussi Australie, Irlande, Zimbabwe, Pakistan et de la région de Hong Kong en Chine, entre autres.
Okay.
Quand même beaucoup, un tiers des...
C'est étonnant, oui. Une autre petite, là, pour vous consoler.
Lequel de nos festivals rapporte le plus? Dans les festivals.
Le Festival international de jazz de Montréal?
Oui. Chaque année, le Québec est l'hôte de plus de 1000 festivals, dont près de la moitié se déroule pendant la saison chaude, et environ les deux tiers d'entre eux seraient de petits festivals locaux ou régionaux, alors que les autres sont plutôt des grands festivals qui attirent des amateurs de musique, de cinéma, de gastronomie ou de sport.
Super! Merci beaucoup, Serge, et merci beaucoup, Isabelle Falardon. On se retrouve la semaine prochaine. À suivre!
Bye-bye!
Kilomètres et l'envie d'y être. Une flèche armée sur l'arc, pieds nus sur le tarmac. Chasser le bruit des mots, place au chant des oiseaux. Vivre à contre-jour, dire du mal de l'amour. Ravive la brûlure, écarte les fissures. Provoque la méfiance, mais je la violence, c'est mon vol le plus pesant de désir ardent. Chasser le bruit des mots, place au chant des oiseaux.
N'importe où, je veux m'en aller.
La vie est si dense, c'est voué à
carbure et va tout droit dans le mur. Les heures croisent la pluie, déferlent dans la nuit. La nature s'éveille d'un éprouvant sommeil.
De joindre notre ami collègue Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
On commence avec une nouvelle série de Franco-Presse, des prix en baisse, mais toujours pas assez de place dans les garderies du Canada.
Un petit rappel, le gouvernement Trudeau avait lancé en 2021 ce programme de garderie, puis des ententes ont été signées avec toutes les provinces et tous les territoires. L'objectif, c'était de créer des places et d'offrir un tarif moyen de 10 $ par jour par enfant, inspiré par ce que vous avez au Québec. Les ententes arrivent à échéance en mars 2026. Donc, c'est le moment de vérifier un peu si les objectifs des différentes ententes, des différentes provinces ont été atteintes. Il n'y a pas beaucoup de provinces qui ont dépassé leur objectif de création de places. Il y a la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick qui sont les seuls à y être arrivés. En Ontario et à l'île du Prince-Édouard, on n'est pas trop loin, mais tous les autres sont en retard. Par exemple, du côté de l'Alberta, ils sont à 18 000 places de l'objectif qui s'était donné. Même au Québec, qui avait aussi de l'argent, ils sont à 10 000 places de l'objectif qui s'était donné à atteindre. Du côté des francophones au Canada, on n'a pas beaucoup de données, en partie parce qu'il y avait seulement 4 provinces qui avaient promis des places pour les francophones écrits noir sur blanc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu qui ont été créés ailleurs. Par exemple, le Yukon, qui n'en avait pas promis, en a créé un certain nombre. Apparemment, il y en a comme 48 qui vont ouvrir bientôt. La bonne nouvelle dans tout ça, par contre, c'est que, d'après le Centre canadien des politiques alternatives, l'entente a aussi réussi à faire baisser le prix des places en garderie de façon générale au Canada. De plus, il y a 30% des places qui ont été créées dans le secteur public et à but non lucratif. Seulement, les autres sont des nouveaux services de garde dans les milieux familiales. Donc, les ententes, comme je disais, viennent à échéance au mois de mars et peuvent être renouvelées au-delà de 2026. Et il y a déjà plusieurs provinces qui l'ont fait.
On passe maintenant à une nouvelle tirée de La Voix acadienne. Les attentes sont élevées pour le nouveau mois du patrimoine canadien, acadien, dis-je bien, à l'île du Prince-Édouard. Un nouveau mois, donc. Une première.
Oui, exactement. Le ministre, le responsable des affaires acadiennes et francophones de l'île, Gilles Arsenault, a annoncé le 15 août, la journée des Acadiens, nationale des Acadiens, donc a annoncé la création officielle de ce mois du patrimoine acadien pour la province. Il y en a qui existent. Il me semble qu'il y en a un au Nouveau-Brunswick. Nouvelle-Écosse a été annoncé aussi il y a quelques années, ils en ont créé. Les associations francophones savaient que ça s'en venait, mais s'attendaient à ce que l'annonce soit faite l'année prochaine, en 2026. Donc, ils ont été prévenus quelques jours d'avance, mais ils ont quand même été un peu pris par surprise. Sont quand même contentes que ça ait été fait un peu plus tôt, mais étrangement, il y a certaines mésententes. Non seulement ils n'ont pas été consultés, comme je disais, mais le choix du mois d'août ne fait pas l'unanimité, même si le mois d'août contient le 15 août. Les associations aimeraient que ce soit pendant l'année scolaire ou aimeraient que ce soit pendant l'année scolaire pour assurer que les jeunes puissent participer activement aux activités, aux festivités. De son côté, la Commission scolaire de langue française trouve que le mois d'août est approprié parce que c'est juste avant la rentrée, donc les professeurs et les jeunes aussi peuvent baigner dans la culture avant la rentrée. Ça motive, ça pourrait les motiver puis, pour la rentrée. Puis on dit que si tout le monde de la communauté est motivé, ça va se refléter de toute façon sur les écoles.
En plus, la rentrée, c'est de plus en plus tôt.
Entre autres. Nous aussi en Ontario, c'est cette semaine, mais je sais qu'il y en a d'autres, c'était la semaine d'avant.
Oui, avant la fin du travail.
Donc, les discussions ne sont pas terminées parce que les organismes espèrent aussi que ce ne sera pas seulement symbolique comme moi spécial. On veut du financement, de la coordination structurée, puis assurer que le mois du patrimoine acadien soit souligné en grand.
Il n'y a pas eu de pluie, beaucoup de pluie en tout cas cet été. Et justement, cet été sec inquiète les producteurs, en particulier les producteurs de sapins de Noël. C'est dans Agricom qu'on en parle.
Ben oui, on parle déjà de Noël au mois de septembre. Puis on pourrait croire que c'est bien d'avance de parler de sapins de Noël, mais c'est rien comparé aux agriculteurs qui vont pousser ces arbres-là parce que ça prend 10 ou 15 ans avant de pouvoir vendre ce qu'ils ont semé. En Ontario, il y a l'association Christmas Tree Farmers qui s'est réunie au mois d'août. Puis les gros sujets de discussion, c'était effectivement la canicule et la relève. Une chose intéressante à savoir, c'est qu'il y aurait environ 700 producteurs en Ontario. Mais c'est pas mal toutes des petites entreprises familiales, contrairement au Québec où c'est un peu plus, c'est plus industrialisé comme culture. La sécheresse de l'été a causé des problèmes aux cultivateurs de sapins de Noël en Ontario. Donc, il y en a un en particulier qui dit avoir perdu 95% des arbres qu'il a plantés cette année.
C'est presque tous les arbres, ça.
Ben, c'est ça. Il n'y en reste pas beaucoup. Donc, en 10-15 ans, la récolte va être moins grande.
Ça ne fera pas un très joyeux Noël.
Pas pour lui, non. Les aléas de la météo et les changements climatiques sont une menace pour le secteur pour les années à venir. Ça semble vouloir indiquer ça. C'est aussi plus difficile d'en vivre. Un autre cultivateur de Castleman, proche de la frontière avec le Québec, explique qu'il vend 800 arbres par année à 100 $ chacun. Ça lui fait bien un revenu de 80 000 $, mais il faut enlever là-dessus les taxes, les assurances, l'entretien, les frais d'exploitation, puis la main-d'œuvre, ce qui fait que il ne lui reste pas grand-chose à la fin de l'année. Par contre, ça devient peu intéressant pour les jeunes de reprendre ces entreprises-là, surtout si c'est familial et que les parents veulent la donner aux enfants. Mais vu que, comme je disais, c'est plus petit, c'est souvent des gens qui soit ont un autre emploi, qui ont ça comme activité secondaire ou c'est des gens à la retraite qui se lancent dans ce domaine-là. Donc, c'est pas perdu, c'est pas nécessairement le gagne-pain principal des agriculteurs en Ontario.
Mais quand même, c'est assez inquiétant. Une nouvelle version de la chanson, pas Mon beau sapin, mais Mon beau drapeau.
Oui. Mon beau drapeau, c'est une chanson qui a été créée dans un conseil scolaire de l'Est de l'Ontario pour célébrer la journée des Franco-Ontariens, des Franco-Ontariennes. Bon, ça a été écrit il y a quelques années par un artiste qui s'appelle Brillant Saint-Pierre. Elle s'est répandue dans tout le système d'éducation de francophones de l'Ontario. C'est devenu la chanson, une des deux chansons qu'on fait apprendre par cœur aux jeunes puis qu'on leur fait chanter le 25 septembre ou lors d'une manifestation pour la fierté francophone. Donc, cette année, c'est le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Le 25 septembre va être très spécial en Ontario. Donc, l'auteur a créé une nouvelle version plus moderne de la chanson. Il a aussi rassemblé plusieurs artistes de la francophonie ontarienne pour interpréter et faire un vidéoclip. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à aller sur YouTube faire la recherche pour voir la vidéo et écouter la chanson. Vous allez reconnaître quelques artistes comme Véronique Diquaire, Robert Paquette, Damien Robitaille et Céleste Lévy, entre autres.
Ah, des beaux talents! Alors, on retient ça pour le 25 septembre. Hein? On va essayer de la faire jouer sur nos ondes.
Bonne idée!
Et vous terminez avec une nouvelle tirée de l'Aurore boréale concernant un nouvel office. C'est le nouvel office de la santé du Yukon qui dévoile son conseil d'administration et la francophonie est malheureusement absente.
l'Aurore boréale qui nous rapporte ça, que le gouvernement du Yukon et le comité des chefs sur la santé a annoncé la composition du premier conseil d'administration de santé et mieux-être Yukon, qui est le nom en français, là. Il y a un nom anglais et autochtone là-dedans. Le nouvel office, donc c'est le nouvel office de la santé. Les membres de ce conseil-là vont avoir pour mission de créer un nouvel office de la santé qui vise à moderniser et améliorer le système de santé au Yukon en le rendant plus coordonné, inclusif et culturellement respectueux. Cependant, la communauté francophone a remarqué qu'aucun des membres de ce nouveau conseil-là n'est francophone. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir présenter, représenter les enjeux des francophones puis assurer que leur voix est entendue autour de la table. L'association franco-yukonaise avait pourtant soutenu 4 candidatures de francophones pour le conseil d'administration. Il semblerait qu'aucune ait été retenue. La nouvelle loi sur la santé du Yukon exige que le premier comité rencontre la communauté francophone. Donc, l'association va faire des suivis pour s'assurer que ce devoir-là est respecté.
Il ne faut pas lâcher. Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Merci d'écouter Au quotidien. À venir, une chanson qui va vous ramener dans les années 60 et on parle de la pièce Trip avec Mathieu Quesnel.
Au quotidien avec Hélène Denis.
White Rabbit de Jefferson Airplane.
Quelle bonne chanson! Et c'est pas mal grâce ou à cause de vous, Mathieu Quesnel, qu'on écoute cette chanson.
Ah oui?
Ben oui, parce que c'est une chanson qui
c'est
nous fait...
une chanson des années 60.
Tout à fait, qui nous fait triper. Et vous, vous nous conviez un trip. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, malgré qu'on a entendu parler, on a lu sur cette pièce qui a déjà été présentée. Mais quel genre de trip vous aviez le goût d'offrir au public, là? C'est pour résumer, faire un résumé de ce que raconte Trip ou Trip, qu'est-ce que vous diriez?
Trip, oui, ouais. En français.
Oui, oui, d'accord. Trip, tripons ensemble.
Si on vient de West Island. ben, c'est un show qui rend hommage aux valeurs de la contre-culture dans les années 60, plus particulièrement à Ken Kesey, l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, et à sa gang de Merry Pranksters, les joyeux lurons en français. À l'époque, eux autres, le LSD était pas illégal, alors que le pot l'était. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, Kesey s'était fait emprisonner pour possession de marijuana, mais pas parce qu'il avait fait le tour des États-Unis en autobus en donnant du Kool-Aid au LSD à tout le monde.
Ah oh, oui.
C'était comme un peu, c'était l'époque où est-ce qu'on se défaisait un peu, on prenait position contre le gouvernement, puis la guerre du Vietnam, un petit peu pré-guerre du Vietnam, dans les années 64-65. Je me suis vraiment intéressé à ceux qui étaient comme un petit peu trop vieux pour être des beatniks, comme Kerouac, puis cette gang-là, puis trop jeunes pour être des hippies qui avaient 20 ans dans les années 60. Eux autres, ils avaient comme environ 30 ans au début des années 60. Puis c'était une gang de marginaux qui n'avaient pas des communes, mais qui trippaient ensemble, autant sur la musique que sur le théâtre, que sur la littérature, que sur le cinéma. Ils essayaient, par les arts, un petit peu de sublimer leur passion, si je peux dire. Puis le show, en fait, j'ai inventé toute une histoire qui est comme un groupe d'entraide qui monte un show annuel sur les valeurs de la contre-culture. T'sais. Puis pendant toutes les 30 premières minutes, c'est comme on voit la répétition de leur show. Puis après ça, ben, il y a un personnage qui arrive quelque chose, le personnage principal, Lucie, sauvée d'amour, qu'elle s'appelle. Puis elle se retrouve dans l'au-delà. Puis là, il y a une équipe de tournage qui tourne le film de sa vie. Fait qu'on passe complètement ailleurs. Puis après ça, il survient encore quelque chose d'autre qui nous amène dans une autre temporalité. Donc, c'est un show à layer, là, si je peux dire, dans le sens qu'il y a des couches de compréhension différentes. Puis mon but, c'était de créer un peu comme l'effet d'un trip. Si on fait de la drogue, il y a comme des étapes, genre un peu la peur, l'angoisse, l'euphorie, le délire, la spiritualité qui embarque, connexion avec l'univers. J'essaie de bâtir mon scénario pour créer ces étapes-là d'une certaine façon.
Bon, alors, vous parlez de drogue. Je ne sais pas si c'est une question qui se pose, mais je la pose quand même. Est-ce que vous étiez sous effet en écrivant cette pièce ou en ayant l'idée de la pièce?
Non, pas du tout, en fait. Même qu'au contraire, parce que j'étais en train de jouer votre envol au Titanic Coco, Rideau Vert, en 2017.
Le rôle principal là, de Mark Murphy, là, celui de Jack Nicholson.
Oui, exactement. C'est ça. Ça avait été fait au Rideau Vert. Moi, je jouais le rôle de Randall.
Oui, je vous avais vu d'ailleurs. Ouais.
Ah bon, tant mieux. Puis, j'ai fait de recherches sur l'auteur à ce moment-là. Puis, en fait, c'est qu'eux aussi, à un moment donné, se sont dit, ben, il faut dépasser le LSD en réussissant à vivre cet état-là de connexion. Puis de
à jeun.
Avec l'univers. Oui, à jeun, c'est ça, exactement.
Ouais.
Fait que c'est un peu ça le but. Fait que non, j'aurais pas pu écrire cette pièce-là sous influence parce qu'il y a 14 personnages, puis c'est vraiment compliqué, ça multiplie les possibilités. Tout le monde, les personnages peuvent tout le temps prendre la parole d'une certaine façon. Fait qu'il fallait que j'invente toute cette structure-là. Non, j'ai travaillé. Ça a été seulement avec du café.
On vous croit. Mais 14 personnages, pourquoi tant de personnages? C'est rare qu'on voit tant de... C'est un grand plaisir, là, surtout qu'il y a du talent au pouce carré. Là. Éric Bernier, ouais. Frédéric Blanchette, Sariane Cormier, Amélie Dallaire, Marie-Claude Guérin, Yves-Jacques, votre pote, Joanie Martel, oui. Jean-René Moisan, Olivier Morin, Sylvie Potvin, Isabelle Rancier, Lucien Ratio, Léa Simard, Guillaume Tremblay. Super distribution. Comment vous avez fait le choix et pourquoi tant de monde?
Ben en fait, ça c'est la contrainte initiale que je m'étais donnée, c'est qu'il fallait que ça soit un show de gang. Puis j'ai fait appel à plusieurs de mes amis, en fait, avec qui j'aime travailler, parce que c'est important que ça dégage là, de l'énergie de scène, que ce soit des gens qui se connaissent pour la plupart déjà. Il y en a qui se connaissaient pas tant, mais moi je les connaissais tous, puis c'était des bons amis. Fait que c'était important pour moi qu'il y ait cette énergie de groupe, là, autant dans les coulisses que sur scène. Puis, fait que je m'étais donné cette contrainte-là.
Ah, c'était une contrainte.
C'était vraiment une contrainte que je me suis donnée, là, de faire un gros show de groupe. Au départ, à la création, à Espace Libre, il y avait 16 personnes, il y avait deux de plus.
Ah oui.
Puis là, pour la reprise, il y a du monde qui pouvait pas le refaire. J'ai décidé de couper les rôles pour réduire un peu le show. Fait que c'est comme une version un petit peu modifiée qu'on présente à la Licorne. Fait que, c'était un gros défi. Quand j'ai fini d'écrire cette pièce-là, là, je me suis écroulé au sol dans mon salon. Là, puis...
Ah oui, ça vous a pris combien de temps de tout écrire, tout finaliser, peaufiner la pièce?
Ben, je me rappelle pas du nombre d'heures, mais en tout cas, ça s'est fait sur à peu près 2 ans. Mais ce que je sais, c'est que mon document de coupure, parce que souvent je coupais des affaires, je les gardais dans un document Word à côté, puis il doit faire comme 300 pages de coupure, alors que le texte fait 85 pages. Fait que j'ai vraiment écrit beaucoup de choses que j'ai coupées. Même hier, c'était la première à la Licorne.
Oui.
Puis j'avais apporté des petites coupures, des petites modifications juste avant. Rien de majeur, là, mais c'est juste pour dire que le texte a vraiment continué d'évoluer quand tu joues avec une grosse gang comme ça.
Et ça va continuer comme ça aussi?
Là, non. Je pense pas. À moins que je regarde la pièce et que je fais « Hey, ça, c'est ça n'a pas de sens ou ça, tu pourrais dire ça. » Ah oui, attends. Mais sinon, non, je suis quelqu'un quand même que, dans les répétitions, j'aime ça que les acteurs aient de la liberté, mais à un moment donné, on finit par bloquer le texte et par refaire quand même la même chose.
Est-ce que vous assistez à la pièce, est-ce que vous pensez assister à la pièce régulièrement? Parce que la pièce est présentée jusqu'au 20 septembre. Il y a déjà des supplémentaires qui sont annoncés. Vous êtes l'auteur, vous êtes le metteur en scène, mais vous ne jouez pas dedans. Là. Mais est-ce que vous êtes du genre à vous présenter régulièrement dans le public?
Quand même, oui. Ben là, pour les premières, oui. Puis c'est un show vraiment où est-ce qu'il y a une collégialité. Là. Tout le monde participe au preset du show, puis il y a des dessins sur scène, puis il faut laver la scène à chaque soir, passer en mop, puis tout ça. Parce
ah oui.
C'est comme si on y
voyait. Ça revole.
Pas tant que ça revole, mais c'est juste qu'il y a du dessin, il y a de la peinture light, fait qu'il faut laver des panneaux, des trucs. Fait que tout le monde participe un peu à ça. Fait que moi, souvent, je passe au théâtre en fin d'après-midi, puis. Je participe avec la gang.
Faites un peu de ménage, de nettoyage.
Ouais.
Et puis la gang, justement, est-ce que en écrivant la pièce, vous voyez les comédiens qui faisaient partie de votre trip? Il était 16 au départ, puis 14 aujourd'hui. Là. Il y en a deux qui ont été sacrifiés.
Ils se sont auto-sacrifiés. Okay. Ils ont préféré faire des tournages télé.
Bon.
Puis finalement, ils regrettent sûrement parce qu'ils se rendent compte que
c'est trop trippant. C'était trippant.
Ouais.
Ah, oh, peut-être, ouais. Ça se peut, ça aussi.
Mais si je voyais en écrivant, tu veux dire?
Oui.
C'est ça. Ben oui, j'avais choisi mon casting avant d'écrire.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai écrit vraiment des personnages qui leur collaient à la peau. Fait que c'est pour ça que c'est le fun pour ça, parce que le casting est vraiment bien choisi. Puis leur énergie a influencé aussi l'écriture.
Et comment a réagi le public hier? Mais la pièce a déjà été présentée en 2020. Ouais. Là, il y a eu la pandémie qui a arrêté tout ça. En plus, il y avait tellement de monde, vous ne pouviez pas jouer à distance, j'imagine. Puis on a fermé les théâtres, là. Mais ça a dû être un bad trip plus qu'un trip quand ça s'est arrivé.
Ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais. Puis surtout que la semaine avant, on était en entrée en salle en 2020. Là, puis on pensait jamais que la pièce allait être annulée. On n'entendait même pas parler de la pandémie. Là.
Non.
Puis, tout à coup, en 5 jours,
tout a basculé.
Oui, c'est que ça avait été un certain bad trip parce que j'avais tellement travaillé fort là-dessus que j'ai comme ça va arrêter, ça m'a fait de la peine.
Mais ça a pris du temps avant que ça revienne à l'affiche entre 2020-2025.
C'est ça. Ben, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui avait, tu sais, les programmations avaient été reportées. Il y avait beaucoup de gens qui, tu sais, les théâtres sont. Ben, ils font des reprises des fois, mais c'est sûr qu'on est porté sur les nouvelles créations, évidemment, parce qu'il y a plusieurs artistes qui déposent pour faire leurs nouvelles créations. Donc, même moi, j'ai fait des nouveaux shows avant de reprendre Trip. Puis, c'était aussi une affaire qu'il fallait rassembler la gang. Là. C'est pas évident de trouver des disponibilités communes.
Ah non, j'imagine que c'est un casse-tête, mais là, vous y êtes arrivé et c'est tant mieux. Donc, hier, comment les gens ont réagi? Le public?
Ben, je pense qu'ils ont bien réagi. Et on a monté le show en 60 heures seulement en mois d'août. Là, c'était pas évident parce que c'était les vacances d'été. Puis justement, trouver les dispos de tout le monde. On a répété en rafale depuis 3 semaines et demie. Puis on a réussi à monter le show. Fait que ça a très bien été, je dirais. Mais c'est sûr que le show, plus qu'ils vont qui vont le faire. C'est comme une partition à 14 là, qui se lance tout le temps la balle. Uh-huh. Il y a un certain ping-pong. Fait, plus qu'ils vont le faire, plus le rythme va gagner, puis plus qu'ils vont être libres sur scène, parce qu'il y a comme des publics de trois côtés, là, c'est un triptyque. Fait que il y a ça aussi à apprivoiser, à en donner pour tout le monde. Fait que je dirais que ça a très bien été, puis que il y a des choses qui sont très drôles là, aussi, même si c'est un. Même s'il y a une part de mystère et un côté un peu mystique, il y a comme quelque chose de très ludique et très drôle aussi. Là. C'est très accessible.
Alors, on va rigoler. On va rigoler entre... je me demandais, quand on regarde, là, je pense que c'est sur le site du Théâtre La Licorne, il y a une vidéo, et puis Yves-Jacques, il dit qu'il comprend rien. Là. Est-ce que... Je sais qu'il fait quand même une blague, là, mais quels sont les enjeux philosophiques qui vous tenaient à cœur dans cette création?
Ben, je veux juste dire, c'est drôle parce que Yves, il m'a dit hier, hey, finalement, j'ai compris le show, puis là, il me l'explique, puis je dis, non, c'est pas ça.
Alors, il y a plusieurs couches. Oui.
Oui, c'est ça. Les enjeux philosophiques, ben, tu sais, d'une certaine façon, il y a plusieurs styles de théâtre qui se mélangent là-dedans. Il y a de la caméra live, il y a comme tout un bout de cinéma aussi. Il y a, d'une certaine façon, moi, je trouve que ça parle de collaboration puis d'amitié, parce que ce que les comédiens ont à accomplir sur scène, ils n'ont pas le choix de se serrer les coudes puis s'épauler. Tu peux pas être individualiste dans un show comme ça. Fait que c'est un show sur le collectif.
Oui. Il faut qu'il y ait une chimie aussi dans le groupe.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui ressort. Puis, il y a une recherche de sens des personnages dans l'histoire. Ils réfléchissent autour des thématiques qui sont apportées. Il y a comme, ils débattent un petit peu ensemble. Fait que, je pense que c'est vraiment un show qui laisse le public avec beaucoup d'idées et d'ingrédients. Puis je pense que ça peut laisser une certaine trace de réflexion, de changement. Ça part, il y a un des personnages, lui, comme il est vraiment anticapitaliste, là, fait que on est tellement dans un monde où tout le monde cherche à cherche à être productif en ce moment, que tu sais, c'est vraiment sa parole à ce personnage-là. Moi, je la trouve vraiment intéressante. Là, puis,
alors, une question, justement, dans cet esprit-là de production, là, si vous deviez résumer Trip en une phrase, Mathieu Quesnel.
Ben, c'est l'hommage à la contre-culture.
Bon, alors Yves-Jean n'a pas compris ça encore.
Non, ben, alors que c'est très simple. Tu sais, dans le sens que c'est une liberté. Ça s'exprime par des choses très concrètes sur scène. Tout ce qui était trop placé théâtralement, j'aimais pas ça. J'étais comme non, c'est pas. C'est comme trop. Ça répond trop à des codes théâtrales. Ce qui est le fun, c'est quand on sent
que. Vous vouliez les briser, les codes.
Ouais, c'est ça. T'sais, des fois, ils jouent juste entre eux. Des fois, ils ouvrent sur le public. Il y a beaucoup de. Ils fracassent le quatrième mur, mais après ça, ils reviennent sur eux. Il fallait trouver. C'est un show qui casse ses propres codes.
Auriez-vous aimé avoir 20 ans dans les années 60? Vive la contre-culture?
Ben, je sais pas. Ça dépend où est-ce que tu es. Tu sais, la contre-culture, ça existe tout le temps un peu, peu importe où est-ce que tu es. J'avais fait un show qui s'appelle Je suis mix là, il y a une couple d'années, puis c'était sur l'underground berlinois. Tu sais, puis. Cette période-là, où est-ce que à Berlin, c'était très fort, l'underground, je suis retourné il y a une couple d'années, puis ça avait déjà changé. T'sais. Il reste qu'il y a de l'underground à Berlin encore, mais c'est totalement le même que j'avais connu. Je trouvais que c'était moins intense. Il y a plein d'endroits qui avaient fermé parce que les loyers étaient rendus trop chers. Tout s'est un petit peu aseptisé d'une certaine façon. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des époques. Fait que. Peut-être qu'en 1960, j'aurais aimé ça, mais aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup nos années, malgré les défis sociaux qu'on a.
Et j'imagine qu'il y a de la musique dans votre spectacle.
Oui, il y a beaucoup de musique live. Yves-Jacques joue du drum.
Oui.
On est un bassiste, un guitariste, il y a des tunes.
Des compositions ou des chansons connues?
Non, c'est comme des covers, oui.
OK.
Que les gens vont reconnaître, oui.
Ah bon. On va se laisser avec une autre chanson des années 60. Je ne sais pas si ça fait partie de votre spectacle. Moi, j'y serai ce soir. California, Robert Charlebois, Louise Forestier.
OK. Non, c'est pas dans le show, mais...
Peut-être un titre.
J'aime beaucoup cette chanson.
Oui, vous l'aimez? Bon, ben peut-être pour Trip 2, qui sait?
Mm-hmm. deux. Ouais, je rêve de faire ça, une pièce de théâtre qui revient, puis c'est juste deux comme ils font au cinéma, justement.
Oui. Et j'avais préparé Mathieu Quesnel en trois mots. Juste pour le plaisir, pour le trip.
Moi? Comment, ouais. comment moi me décrire en trois mots?
Mm-hmm.
gentil.
Oui.
Fou.
Gentil, taquin. Fou.
Gentil, fou, sociable.
OK.
Gentil, fou, sociable.
Gentil, fou, sociable. Bon, on a le goût de vous connaître davantage. Merci beaucoup, Mathieu Quesnel. Et puis, bon succès avec cette pièce qui reprend l'affiche, si je peux dire, en tout cas, qui est présentée pour une première à la Licorne. Ça a commencé oui. hier et ça se poursuit pas mal pendant tout septembre. Le mot de Cambronne.
Oui, c'est presque sold out.
Oui, bien, tant mieux. Les gens ont le goût de triper, oui. on dirait, hein?
Oui.
Merci, on Mathieu Quesnel. Bonne
Merci.
Saison.
Salut, salut.
Bye.
Et je descends lentement l'escalier rouge et blanc de l'avion qui m'emporte chaque nuit en Californie. En Californie. In California. Est-ce la monnaie du soleil? Ce jaune des taxis ou sang des hommes qui s'éparpille dans la nuit?
Où s'éparpille la nuit en Californie? En Californie.
California. Un moteur gris dans le brouillard me pousse au fond de nulle part entre les anges dans le soir. Les peintes de lait tout en or
se scintillent dans les bras.
En Californie.
En Californie.
À mon réveil, où étais-tu? Il ventait fort dans mes oreilles. J'achèterai un camion blanc qui nous emportera au printemps en Californie.
En Californie.
En Californie.
Une autre dans la catégorie qu'on prendrait pendant au moins 10 minutes de plus.
C'est tellement bon.
Robert Charlebois et Louise Forestier pour la chanson « California ».
Oui, c'est à cause ou grâce à Mathieu Quesnel qui était avec nous pour nous parler de sa création « Trip ». Quelques par actualité, guerre à Gaza, au moins 21 000 enfants handicapés selon un comité de l'ONU. Au moins 21 000 enfants vivent avec un handicap causé par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre 2023, soit plus de la moitié de l'ensemble des enfants blessés. C'est ce qu'a indiqué le Comité des droits des personnes handicapées, le CDPH, organe des Nations unies. C'est dans le Journal de Montréal. Au total, quelques 40 500 enfants ont souffert de blessures provoquées par la guerre en près de 2 ans, a précisé ce comité composé d'experts qui se réunit 2 fois par an à Genève. Israël, selon le comité toujours, devait adopter des mesures spécifiques pour protéger les enfants handicapés contre les attaques et mettre en œuvre des protocoles d'évacuation tenant compte des personnes en situation de handicap, car estime le CDPH, les ordres d'évacuation israéliens à Gaza ne parviennent souvent pas aux personnes ayant des déficiences auditives ou visuelles, ce qui rend l'évacuation impossible. Les experts font également état de personnes handicapées contraintes de fuir dans des conditions dangereuses et indignes, comme ramper dans le sable ou dans la boue, sans aide à la mobilité. Le comité a déterminé que pas moins de 83 % des personnes handicapées avaient perdu leur dispositif d'assistance et que la plupart n'étaient pas en mesure de trouver des alternatives comme des charrettes à ânes. Les obstacles physiques tels que les décombres d'immeubles ou d'infrastructures et la perte d'aide à la mobilité ont également empêché les personnes d'atteindre les nouveaux points de distribution d'aide. Les experts ont exprimé leurs inquiétudes de voir des dispositifs comme les fauteuils roulants, déambulateurs, cannes, attelles et autres prothèses considérées par les autorités israéliennes comme des articles à double usage, donc également offensifs et ne soient donc pas inclus dans les envois d'aide. Le comité a par ailleurs indiqué que les restrictions sur l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza avaient un impact disproportionné sur les personnes handicapées dont beaucoup restent sans nourriture, eau potable ou assainissement et dépendent des autres pour leur survie. Le CDPH a appelé à la livraison d'une aide humanitaire massive aux personnes en situation de handicap touchées par la guerre, tout en insistant sur le fait que toutes les parties devaient adopter des mesures de protection pour les personnes handicapées afin de prévenir de nouvelles violences, préjudices, décès et privations de droits. Selon le comité, au moins 157 114 personnes ont été blessées, dont plus de 25 % risquent de souffrir d'incapacité à vie entre le 7 octobre 2023 et le 21 août de cette année. La sclérose latérale amyotrophique, qu'on appelle SLA, mobilisera encore une fois la communauté alors que la 20e marche pour vaincre la SLA de Charlevoix aura lieu le 21 septembre au Parc du Havre à la Malbaie. La présidence d'honneur a été confiée à Luc Samana, expert conseil en développement stratégique. Les inscriptions débuteront à midi et le départ de la marche est prévu pour 13h30. L'animation sera assurée par Danny Tremblay, accompagné de DJ Martin Lavoie, qui est atteint de la SLA. L'an dernier, l'événement avait permis d'amasser 31 834 $, un record de dons pour la région. Plus de 300 personnes avaient alors pris part à la marche au Parc du Havre. Comme à l'habitude, des rafraîchissements et des prix de présence seront offerts aux participants. La marche vise à soutenir les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique et leurs proches. Je vous rappelle que la marche, la 20e édition de cette marche pour vaincre la SLA de Charlevoix aura lieu le 21 septembre. Ça va se dérouler au Parc du Havre à la Malbaie. passé dans la presse. On va certainement en reparler. On va en parler toute la journée et demain aussi. 6 ans après la mort de la fillette de Granby qui a donné lieu à l'emprisonnement de son père et de sa belle-mère, le rapport de la coroner, Jeanne Kamel, conclut que la tragédie est le fruit d'une accumulation de signaux d'alerte qui, malheureusement, n'ont pas trouvé de réponse concertée et adaptée. Je vous souhaite un très beau mercredi fait soleil. J'espère que vous allez avoir la chance d'en profiter un peu, d'aller prendre l'air et un peu de soleil. N'oubliez pas la crème solaire. Merci à toute l'équipe. Mathieu, ici Hélène Denis, à demain.